Ça marche. Bonjour à tous, je suis Mirko Santoro et je vais vous parler d'une expérimentation autour des composés séquentiels et composés simultanés en LSF. Je suis en cours de doctorat, j'espère le finir bientôt, d'ici un mois. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement un petit peu à vous, public qui est là et présent, soit entendant. Je vais profiter un petit peu de vous présenter mon travail. Alors, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle IJN. Alors, que signifie composer, mot composé? Alors, il y a deux personnes que vous connaissez certainement, deux Américains, Klima et Bellucci, qui ont édicté un certain nombre de critères pour identifier justement ces mots composés. L'un des premiers, c'est la phonologie. Et dans les mots composés, il y a souvent une réduction phonologique. Donc avec un petit changement du mouvement qui induit une réduction. La morphologie. Donc dans les mots composés, dans les signes composés, voilà, ce sont deux signes avec des racines lexicales qui se composent entre elles. La morphosyntaxe, donc vous avez la grammaire, et dans les mots composés, vous pouvez parler aussi de morphosyntaxe. Il peut y avoir plusieurs éléments dans un signe unique. La syntaxe, c'est une chose que l'on ne peut pas scinder. Vous avez une seule unité lexicale et la sémantique. Donc vous avez des signes composés ou séparés qui ont une signification qui diffère. La réduction phonologique est souvent... Enfin, est-ce que c'est de la réduction liée au mouvement ou pas, en particulier ? Donc je vais un petit peu axer mon travail aussi là-dessus. Donc ces signes composés, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Donc il y a composition séquentielle. Un certain nombre de signes sont comme ça. Hein, donc voilà, je vais vous en montrer un. Voilà ce signe-là, par exemple, hypothèse. Pardon, est-ce que vous... On va le repasser une seconde fois. Mais vous avez d'autres choses qui sont intéressantes. Ce sont les signes composés simultanés. Ils sont simultanés parce qu'avec la langue des signes, on peut utiliser à la fois une main et l'autre pour faire deux choses différentes. Et donc, ce sont des signes composés simultanés. Donc là, j'ai pris un signe de la BSL parce que la première personne qui s'est intéressée au sujet a travaillé sur les signes composés simultanés. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce signe à titre d'exemple. Donc, c'est de la BSL. Et le chercheur s'appelait Brennan. Peut-être parmi vous, voilà, certains connaissent, vous voyez les deux mains qui font deux choses différentes en même temps. Donc, ce sont des signes composés simultanés. Voici mes questions de recherche. Trois questions. Je suis allée fouiller dans les théories linguistiques et du côté de la communauté sourde également. Quelle perception ont-ils? Parce que la communauté sourde, parfois, ne connaît pas forcément très très bien la linguistique. Donc j'ai voulu aussi, moi, réfléchir un petit peu à un certain nombre de choses. Et donc, je me suis intéressée aux mots composés, simultanés ou séquentiels. Est-ce qu'ils étaient perçus de la même manière par les signeurs? Ensuite, la réduction phonologique. Est-ce qu'elle est un critère suffisant pour identifier les mots composés? Est-ce que la réduction phonologique, voilà, suffit-elle? Donc, c'était voilà, une seconde question. Et ensuite, la procédure cognitive dont dérivent les mots composés séquentiels et simultanés, est-ce qu'elle est la même? ma méthodologie de recherche maintenant. Donc j'avais un certain nombre de stimuli que j'ai créés moi-même, donc j'en ai eu 72, ce qui est quand même assez conséquent. Donc 72 stimuli décomposés en 12 composés simultanés, 12 composés séquentiels, et à partir de ça, j'avais des éléments que j'ai nommés base 1, base 2, et 24 de chaque, donc 24 séquentiels, 24 simultanés. Donc en tout, j'avais un certain nombre donc, de phrases en langue des signes, plus ou moins longues, parfois très courtes, juste très très simples à mémoriser. Et voilà en tout donc, les 72 stimuli utilisés. Là, je vais vous en proposer un, qui est un stimuli de base, donc une phrase signée. Voilà, donc je veux vous la présenter. Et en fait, je vais regarder, essayer de repérer combien il y a de signes. 3 signes. Voilà, hein, voilà, c'est facile à voir, 3 signes. Maintenant, la même phrase, exactement, sauf que il y a un signe que j'ai remplacé par 2 signes. Donc ce que j'appelle base 2, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'appelais base 2. Donc, si je vous posais la question, vous allez me répondre, il y a 4 signes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un petit peu plus loin et de regarder s'il y a des signes composés. Donc, essayez de voir. Bon, combien vous voyez de signes là ? 2, 3, combien ? 3, la grande majorité répond 3. Ah, bon. Donc, est-ce qu'il y a des signes composés dans ces 3 signes ? 1, par rapport à la base 1, qui était la phrase de référence. Donc là, il y avait 2 signes séparés. Et sur la base 2, en fait, vous voyez, là, il y a un signe. Un signe composé, il n'y a que 3 signes. Alors, les participants à ma recherche étaient donc 18 sourds, 8 femmes, 10 hommes. Je leur ai posé à chacun un certain nombre de questions autour de leur âge, l'âge d'acquisition de la langue des signes, l'école, est-ce qu'ils avaient fréquenté l'école avec des entendants ou des sourds, leurs parents, parents sourds ou entendants, leur origine. En France, d'où venaient-ils ? Parce qu'en fonction des différentes régions, il pouvait y avoir des différences entre eux. Mon expérimentation, pour ce faire, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Qualtrics, qui m'a permis d'analyser les réponses en fait, des participants. Donc, ils regardaient les vidéos et ils répondaient en dessous à une question qui leur était posée. En fait, ils mettaient le nombre de signes qu'ils avaient perçus dans la vidéo. Un petit peu ce qu'on vient de faire, là, 3, 4, 5 signes. Et donc c'était un questionnaire qui se poursuivait comme ça. Et les résultats de cette enquête sont présentés par rapport aux signes donc composés ou séquentiels. Et on s'aperçoit qu'en fait, lorsqu'il y a qu'un signe, les réponses sont beaucoup plus correctes. Et les signes base 2, il y a un petit peu moins de bonnes réponses. Et plus on va sur des signes séquentiels, moins les réponses sont bonnes et plus il y a de flou. Et c'est pour ça qu'on voit cette espèce de courbe qui descend vers la droite. Ce qui est intéressant aussi, c'est les résultats liés à l'âge. Plus les participants étaient jeunes, plus les réponses étaient correctes. Et plus ils avançaient en âge, plus les réponses étaient mauvaises. C'était un petit peu normal. Au niveau cognitif, il se passe des choses. Et puis, ce qui était intéressant également, c'est que les sourds qui avaient la langue des signes en langue 1 avaient de meilleurs résultats que ceux qui ne l'avaient pas en langue 1 ou pas en langue maternelle. Alors, il n'y avait pas un écart très très conséquent, mais quand même, on voit que malgré tout, ceux qui avaient la langue des signes en langue 1 avaient de meilleurs résultats, ce qui est quand même intéressant. Donc, voici en résumé donc, les trois schémas qui répondaient à mes questions. Maintenant, vous voyez là, affiché, les réponses aux questions initiales. Par rapport aux deux types composés, est-ce qu'ils sont perçus de la même manière? Eh bien non. Est-ce que la réduction phonologique est un critère suffisant? Ben oui, d'après mon expérience, effectivement. La réduction phonologique est un critère, oui, est présente, est là, et elle se suffit à elle-même. Et ensuite, par rapport à la procédure cognitive, dont dérivent les signes composés ou les signes séquentiels, eh bien, en fait, là, il y a une différence. On s'aperçoit que ce n'est pas pareil. Voilà, le temps qui m'était imparti est terminé, je suis désolée. Si ça vous intéresse, vous pourrez me poser des questions ensuite.
Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Monique Gendreau, mon nom signe est Monique. Je suis interprète français, langue des signes française et retraitée de l'INJS de Paris depuis septembre 2017. Dans le cadre du pôle LSF ressources de l'Institut, j'ai officié au renseignement de la langue des signes technique au lycée professionnel de 2008 à 2017. Ce pôle a été mis en place dans le cadre du projet d'établissement 2005-2010 et plus spécifiquement dans le cadre du projet linguistique voté en 2006. Parmi ses missions, le pôle LSF a de renseigner le lexique professionnel des filières présentes à l'Institut. Alain Gébert, dont le nom signe est le suivant, sourd et professeur de LSF, en assure le pilotage. C'est à sa demande que j'intègre le pôle en 2008 au titre d'interprète et pour avoir été sensibilisée par lui au renseignement de la langue des signes au cours du projet de développement de la langue des signes mauricienne à l'île Maurice, auquel j'ai contribué de 2005 à 2007. À ses côtés d'abord, puis parallèlement, je collabore ainsi au renseignement de la langue des signes professionnelle à l'INJS de 2008 à 2017. En effet, en l'absence de publication d'un lexique technique des métiers en LSF, l'enjeu est de réaliser et diffuser un lexique LSF français à visée pédagogique à partir des signes LS développés par les lycéens au sein de chaque filière. Ceci afin d'harmoniser l'enseignement en LSF et pérenniser le lexique renseigné. Ainsi, au sein de l'établissement, collaborent à la réalisation de ce lexique des lycéens, qui sont nos informateurs, des professeurs d'enseignement technique, le pôle LSF, professeur de LSF et interprète, le service multimédia, son responsable et les techniciens. Notre procédure s'appuie sur le modèle sémiologique conçu par Christian Cuxac, puis développé par Marianne Salandre. En effet, les travaux de Christian Cuxac distinguent deux visées, deux manières de dire en langue des signes. L'une illustrative, le dire en montrant avec les structures de grande iconicité, l'autre non illustrative, le dire sans montrer avec le lexique les signes standards. Or, en l'absence d'un lexique professionnel non encore identifié en langue des signes, nous nous appuyons sur la première visée, la visée illustrative, afin d'en extraire les signes émergents et en cours d'institutionnalisation parmi nos jeunes lycéens formés à l'Institut et en dernière année d'apprentissage. Locuteurs de leur langue, ils sont nos informateurs. En effet, notre démarche est bien de documenter la langue et non de créer des signes artificiels utiles aux enseignants afin de dispenser leurs cours. Elle vient également corriger l'emploi en cours de signes fortement corroborés au français écrit ou vocal. Nous en donnerons des exemples. Le pôle LSF procède donc à un recueil de corpus brut sous la forme de captations vidéo en contexte à l'atelier en présence des machines et des outils. Le recueil en contexte renvoie au modèle sémiologique de Christian Cuxac et en particulier à la notion d'iconisation de l'expérience dont à terme émergent les unités lexicales. Les étapes en images. Nous opérons d'abord un recueil de corpus brut à l'atelier hors présence du professeur. Les élèves exécutent donc une tâche devant nous avant de nous la commenter en langue des signes. Nous procédons ensuite à l'analyse collégiale des corpus recueillis et à l'extraction des signes lexicaux en présence des élèves, du professeur et du pôle LSF. Nous organisons ensuite une validation collégiale des signes extraits des corpus en présence du professeur. Une remarque, des variantes peuvent émerger. Exemple, en coiffure, pour le signe coloration, nous avons eu deux propositions, nous avons eu coloration ou bien coloration. Pardon. Coloration ou bien coloration, couleur et application de la couleur.
Les deux variantes sont à retenir.
Nous avons eu aussi en cours de renseignement des signes qui se sont fixés. Par exemple, en horticulture, nous avions tassé avec une batte qui s'est fixée avec tassé avec une batte. Suite à l'extraction des signes, nous renseignons ensuite la terminologie technique en français avec le professeur de la filière. Ensuite, nous validons ou non les contenus explicatifs des élèves afférents à un outil, une technique, et nous le validons avec le professeur. Si le contenu doit être revu, il est reformulé par les élèves en classe avec captation vidéo sous la supervision du professeur d'enseignement technique et du pôle LSF. Nous procédons ensuite à un tournage définitif en atelier, en présence ou non du professeur d'enseignement technique, puis à un tournage des signes LS en studio, avant de rédiger des contenus explicatifs et descriptifs afférents à chaque signe renseigné, ce avec le professeur d'enseignement technique et le pôle LSF. Arrêtons-nous un instant sur les contenus explicatifs et descriptifs. Je ne vais pas m'y arrêter. Sachez simplement que nous avons appelé, non pas définition les contenus explicatifs, mais description, parce que des notions telles que en acier trempé, gaz industriel, pièces oxydées, tout ça ne paraît pas dans les contenus que nous avons recueillis auprès des élèves. À présent, revenons aux exemples annoncés plus haut quant à l'usage d'un code signé institué par le professeur technique en cours, faute de connaître un vocabulaire technique, bien sûr, spécifique au métier qu'il enseigne. Ce code était fortement corroboré au français et se référait au lexique standard de la langue des signes. Par exemple, en prothèse dentaire, nous avions couronne, puisqu'en langue des signes, le signe standard était couronne, nous avions couronne. Or, quand nous avons renseigné la langue des signes professionnelle, nous avons obtenu couronne pour couronne anatomique, puisqu'il y avait la racine, couronne.
Le micro.
Ah, pardon.
Voilà, le micro.
Pardon. Parce que nous avions...
Attends, je vais tenir.
Voilà, merci. Nous avions la couronne anatomique et la couronne prothétique, alors qu'au préalable, nous n'avions qu'un seul signe pour signifier couronne. D'autre part, pour la ligne guide, nous avions ligne guide. Or, quand nous avons renseigné la langue des signes, nous avons obtenu « dent », la proforme de la dent et la ligne guide. Un autre exemple, pour le signe multiplication, la technique de multiplication en horticulture, nous avions le signe mathématique multiplié, multiplication. Or, quand nous avons renseigné la langue des signes, nous avons obtenu « multiplication ». Et ce, nous l'avons obtenu 3 ans après avoir renseigné la prothèse dentaire qui... Donc, multiplication en horticulture. Et la prothèse dentaire, le jeune avait de nous dire un duplicata. Et quand il y a eu plusieurs duplicata, il nous a fait le terme générique, une multiplication de duplicata. Je me dépêche. L'évolution des supports, j'ai bientôt terminé, et des voies empruntées au renseignement du lexique au fil des années. Nous sommes allés... Nous avons démarré avec la réalisation d'un glossaire avec illustration papier, et ça c'était en 2009, pour aboutir à un dictionnaire numérique bilingue français-langue des signes conçu par Alain Gébert, professeur à l'Institut, professeur de LSF, je l'ai indiqué, inscrit en master de lexicologie à l'Université Lille 3. Pour information, Alain, concepteur de ce dernier modèle de dictionnaire numérique, vous en fera une démonstration ce mercredi 31 octobre à l'INES HEA. Les résultats, pour les 6 filières dont le lexique est déjà renseigné, à savoir coiffure, prothèse dentaire, installation sanitaire, serrurerie, métallerie, menuiserie, horticulture, ce dernier est consultable sur le site de l'INGS de Paris à la rubrique lexique. Lexique français LSF. Voilà, et je termine avec nos théories de référence, Christian Cuxac, Marianne, et puis Anne Irisler pour Lille 3, le master de lexicologie. Merci beaucoup. J'espère que je suis rentrée dans le temps. Merci à tous.
Merci Monique.
Donc, bonjour à tous. Premièrement, je voudrais m'excuser que je ne parle pas LSF. Quand je viens dans un pays, j'aime bien présenter mon travail dans les langues du pays. Donc, je ne sais pas LSF par les moments que je vais l'apprendre, mais pour le moment, je le présente en français. Donc, premièrement, je suis Rodolfo Pinheiro de Azevedo. Je fais mon master en linguistique à l'Université de Brasilia. Mon signe en langue des signes, c'est celui-là. Et aussi, je suis enseignant des mathématiques à l'école bilingue pour sourds à Brasilia. Donc, pour mon master, je travaille avec la terminologie des mathématiques pour l'enseignement des sourds. Donc, comme objet d'étude, je travaille avec le terme mathématique du champ conceptuel des équations. C'est ces champs conceptuels, ces mots que je choisis pour travailler et faire ce développement de signes en langue des signes brésilienne. Comme motivation, premièrement, je suis enseignant de mathématiques, donc je vis que dans les cours de maths que j'ai donné à mes élèves, ils voulaient avoir des signes appropriés pour le terme que on travaillait. Donc, cette manque terminologique est un problème dans le travail. Et en plus, ces champs lui-même, j'ai choisi pourquoi. Bon, en mathématiques, je dis que c'est la plus grande barrière conceptuelle pour l'enseignement des mathématiques, soit pour les entendants ou même pour les sourds, c'est quand on passe de l'arithmétique jusqu'à l'algèbre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'arithmétique, c'est le premier pas en mathématiques, ce sont les parties qu'on travaille avec les connaissances concrètes de mathématiques. Ça veut dire les opérations fondamentales, l'addition, soustraction, division, tout ça. Et ces méthodes de comptage, on fait compter les choses au monde. Donc, on travaille toujours avec la partie concrète. Après, on a les moments qu'on commence à faire les abstractions en mathématiques. Et pour faire ces points entre l'arithmétique et l'algèbre, on utilise les équations. Donc, c'est les moments les plus difficiles pour un étudiant. C'est ces moments quand il va commencer à apprendre les équations. Et bon, tout en mathématiques sera tellement différent. Jusqu'au moment que tu vas arriver à l'université, qu'il n'y a pas de nombres, seulement les lettres. Donc, on a tous ces changements dans les connaissances mathématiques. En plus, au Brésil, maintenant, on a l'examen ENEM, qui serait comme le bac ici en France, qui c'est l'examen pour accéder à l'université. Il était toujours fait seulement en portugais. Et l'année dernière, c'était la première fois que cet examen était fait en langue des signes. Il y a eu un groupe de traducteurs qui ont traduit cet examen tout en langue des signes. Et c'était fantastique, l'examen de mathématiques, c'était si bon. Cette année-là, il y aura la deuxième fois cet examen en langue des signes. Je pense que ça sera ce week-end-là. Je ne suis pas sûr, mais je pense que ce week-end-là, il va commencer déjà la deuxième édition avec cette traduction en langue des signes. Donc, c'est notre motivation pour ce travail. Donc, comment on a fait pour travailler ça et on est encore en train de faire? Je finirai seulement en février. Bon, il reste quelques temps. Mais bon, premièrement, pour faire ces travaux, on a dû choisir les champs conceptuels, les équations. Et après ça, on a dû faire la collection de ces termes en langue portugaise. Donc, premièrement, on a utilisé tout le base curriculaire du Brésil pour savoir quoi on a, c'était des contenus en chaque étape des enseignements. Et après, on a utilisé des dictionnaires de mathématiques et aussi des livres, des manuels que les élèves utilisent dans les écoles. Ces manuels qui sont approuvés par le gouvernement. Pour les écoles publiques au Brésil, on a à chaque 3 années, on a une étude de livres qui sont approuvés par le gouvernement pour être utilisés dans les écoles publiques. Ça n'a pas pour les particuliers. Les particuliers peuvent choisir n'importe lesquels. Mais pour les établissements publics, il a chaque 3 années, ça fait ce changement de ce manuel qui seront utilisés. Donc, j'ai utilisé le plus récent, qui sont maintenant utilisés dans les écoles publiques partout au Brésil. Après ça, je commençais à faire l'investigation. s'il avait déjà ce terme, ce signe-terme en langue des signes, en Libras. J'ai trouvé quelques-uns. Il y avait beaucoup dans les écoles, c'est qu'on fait normalement dans les écoles. On n'a pas le terme, mais bon, on a besoin de travailler. Donc, on va avec les élèves créer un terme quelconque, seulement pour aider ces processus de communication. Donc, je vis ce terme. Ils seront, bien sûr, présentés dans mon travail final. Même si, bon, j'ai une proposition, ce n'est pas à moi, mais bon, on a mis les Falk, Monsieur Falk, son signe, en langue des signes, c'est un chercheur sourd de l'Université de Brasilia qui m'a aidé avec ses signes. Après cette période, on a fait bien le moment de création de ces signes en langue des signes. Il était avec ce monsieur Falk, professeur Falk, et lui, il a fait une base conceptuelle qui c'était pour équation celle-là. Et avec cette base conceptuelle, il a dû développer tous les autres concepts concernant les équations. On verra dans quelques moments les exemples qu'on a jusqu'à le moment. Après vient le moment de validation. On est dans ces moments-là que bon, on a les signes, on commence à le lever à les écoles, au groupe de chercheurs de l'Université de Brasilia, ici au Congrès, pour que vous puissiez aussi voir ces signes et donner vos opinions. Ça, pour moi, c'est bien important. La partie plus difficile qu'on est encore en train de faire, c'est la création des définitions. Je n'ai pas trouvé un modèle de définition en langue des signes qui c'est bien intéressant parce qu'on a le modèle de définition en langue portugaise, mais je pense que ce modèle pour la langue des signes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Mais bien, on a dû adapter ça, et ça c'est dur. Mais bien, on essaie de faire ces définitions en langue des signes qui soient claires. Mon but dans ce travail, c'est que ce soit clair. Ce n'est pas seulement publier quelque chose avec des signes de définition que personne ne va comprendre. Si personne ne comprend, c'est inutile. Donc, je veux ces définitions d'une manière qui soit claire pour ceux qui sont sourds. Et bien, à la fin, il y aura la création et l'élaboration du glossaire bilingue, selon le modèle de glossaire bilingue de Tuxi, son signe en langue des signes. Tuxi, c'est professeur à l'Université de Brasilia. Donc, oh là là, deux minutes, ça va. Madame Tuxi a fait l'année dernière, 2017, son modèle de l'élaboration des glossaires bilingues. Ceux-là sont le terme que j'ai obtenu dans ce camp conceptuel. Ça fait 24 termes. Ce sont grande majorité, vous pouvez voir, ce sont des équations, les types d'équations, aussi les inéquations. Il y a aussi les mots qui désignent les lettres en mathématiques. Parce qu'on a seulement l'inconnu en mathématiques, mais on a quatre. La lettre en mathématiques peut être quatre choses différentes. En portugais et en français. En anglais, ça peut être cinq. On a un en plus. On a un terme en plus pour désigner la lettre en anglais. Donc, c'est aussi important dans ces moments-là de placer ça pour qu'il puisse être évident pour les étudiants ces différences. Parce que chaque problématique, ces lettres auront des significations différentes. Donc, ça, c'est bien de savoir bien clair. Ce n'est pas seulement les inconnus. Et de cette manière, sur la proposition du glossaire, je pense qu'il est un peu coupé là, mais bien. Ce n'est pas fini encore, le glossaire, mais notre intention, c'est avoir le signe et la définition en langue des signes. C'est un glossaire bilingue, donc je vais les deux langues ensemble. Donc vous pouvez voir l'image, il y aura une vidéo, un moment je vais le jouer. Ça va. Je pédale vite. Il y aura aussi des définitions et l'exemple en portugais et les exemples qui seront visuels, parce que si on parle de mathématiques, mathématiques a ces traces visuelles. Donc, si seulement c'est premier pour jouer pour que vous puissiez voir ça en marchant. Donc, il va dire équation, l'entrée, et après, équation. Qu'est-ce que c'est l'équation? Regarde, il a une quantité de numéros qui ne s'est pas balancée, mais elle doit être balancée. Comment on fait? On doit rencontrer un nombre inconnu pour qu'elle soit balancée. Donc, c'est une proposition pour ça. On aura encore les autres, mais je n'ai pas du temps pour démontrer. Donc, c'est ça. Je vais mettre vite. Pour mes références, bien, merci pour votre attention. Je suis prêt à être là. Merci beaucoup.
Merci, Rodolphe. Je passe la parole à... Je passe maintenant la parole à Mélissa Arneton, Cédric Moreau, Véronique, Anne Van Brugge, nos collègues de l'INSHEA. Et c'est Mélissa qui fait la présentation.
Alors, j'espère être aussi claire que les autres. Et que je vais garder le temps de manière précise. Alors, même si je suis seule aujourd'hui à parler, ce travail réunit quatre voix. Celle de Véronique, son signe, c'est ça. Celle de Cédric Moreau, son signe, c'est ça. Et celle d'Anne, son signe, c'est ça. Donc, nous avons réfléchi ensemble de manière interdisciplinaire à l'enseignement-apprentissage d'une littératie professionnelle à des étudiants sourds afin d'en dégager des éléments transférables à d'autres apprenants en milieu universitaire. Cette contribution est structurée en quatre parties. Tout d'abord, le contexte d'enseignement de la licence 2 et en langue des signes, puis quelques éléments de l'analyse de l'activité d'enseignement de la psychologie. Ensuite, je présenterai certains choix didactiques et pédagogiques avant d'arriver à la conclusion. Chaque partie pourrait faire seule l'objet d'une communication de 10 minutes. Mais si nous les présentons ensemble aujourd'hui, c'est parce que ces différentes parties sont liées et elles reflètent le cheminement réflexif que Véronique, Anne, Cédric et moi me permettent à moi, Mélissa, enseignante de psychologie non signeuse. Du fait de l'histoire de la langue des signes en France et de l'éducation des sourds, une grande partie des étudiants a un vécu antérieur compliqué avec les apprentissages scolaires. Depuis son ouverture en 2004, la licence professionnelle enseignement de la langue des signes en milieu scolaire, assurée par l'Université de Paris 8 en partenariat avec l'INSHEA et l'association visuelle et l'ESSEF, accueille un public très majoritairement sourd. Une autre particularité de cette licence est d'être totalement en langue des signes. L'enseignement est conçu pour des apprenants sourds-signeurs. S'appuyer sur une approche socio-constructiviste avec un public de futurs enseignants est pertinent. Ces professionnels en formation vont se trouver placés dans des modalités d'apprentissage qu'ils pourront transposer avec un public d'enfants sourds. En sus des compétences des étudiants, l'activité d'enseignement-apprentissage tient compte à la fois des choix didactiques et pédagogiques de l'enseignant universitaire, des attentes en termes de contenu d'enseignement négociés avec l'équipe pédagogique de la licence professionnelle, ainsi que des représentations de ce qu'est la psychologie par les apprenants. Généralement, les étudiants rencontraient dans leur parcours plutôt des psychologues cliniciens. Ils ont plus rarement rencontré un psychologue de l'orientation. L'un des enjeux de l'enseignement est de former des étudiants à l'aise avec les différentes facettes de la psychologie. Le choix des contenus se fait donc en référence aux curricula généraux des enseignants du primaire et du secondaire de l'enseignement public formés par les écoles supérieures du professorat et de l'enseignement. L'utilisation de sources fictionnelles, comme des films, est l'une des ressources utilisées en introduction du cours. mobiliser les expériences antérieures des étudiants, ce qu'ils ont vécu durant leur propre parcours scolaire en est une autre. Amener les étudiants à réinterroger leur manière d'apprendre et leur représentation des manières d'enseigner à la lumière des apports de la psychologie de l'éducation favorise la création d'un espace réflexif d'appropriation des savoirs. C'est tout particulièrement le cas à la fin de chaque semestre pour l'évaluation que je leur demande. Les étudiants sont amenés à mettre en perspective les acquis du cours avec leur expérience au travers de l'analyse d'un cas au semestre 1, c'est moi qui fournis le cas qu'ils doivent expliquer, et d'un cas personnel qu'ils proposent et analysent chacun de manière individuelle au semestre 2. En plus de la question des supports fictionnels, il y a aussi la question de la bimodalité qui est à prendre en compte. Ça ouvre une troisième piste pédagogique. La bimodalité nécessite à la fois de tenir compte des modalités perceptives des apprenants, mais également de leur permettre de conceptualiser des notions vues en cours afin de les identifier, de les produire et surtout de se les approprier. Alors, pour tenir le temps, je vais passer sur l'utilisation des diaporamas. Et je vais arriver à quelque chose qu'on a essayé de mettre en place dès cette année, en aidant les étudiants à se saisir des concepts. L'enseignement de la psychologie vise à permettre aux étudiants de faire des liens entre un référent correspondant à une réalité de la pratique enseignante, le signifiant, le mot ou le signe pour expliquer ce phénomène et le signifié qui correspond au concept en psychologie. Mais comment permettre aux étudiants de se saisir et conceptualiser des notions en tenant compte de différents environnements d'usage? Si je prends le mot « environnement », ça renvoie aussi bien à écologie, protection de la vie, de la terre et de la nature, qu'au parti politique des Verts en France. Mais c'est aussi l'environnement de vie d'un élève, son quartier, sa ville, sa région. Et en plus de tout ça, ça veut aussi dire environnement, autre chose en psychologie. La plateforme collaborative multilingue OCEL offre des outils nécessaires au transfert des ressources didactiques entre langue écrite, orale et signée. Plus qu'une simple équivalence lexicale, l'ontologie s'appuie sur la mise en relation explicite entre signifiant et signifié. Donc là, c'est une des pages d'OCEL pour le mot « environnement ». Ici, vous avez la présentation de comment voir le signe environnement et en plus du signe, il y a aussi la définition de ce que ça veut dire environnement en psychologie. Donc ça, c'est pour le signe, et là, c'est la partie pour la définition. Et ce qui est important, c'est que... Ouais, il me reste 2 minutes. C'est qu'en plus de ces différentes définitions du mot « environnement », en psychologie, dans la vie quotidienne, il y a aussi une autre définition d'environnement en sociologie, par exemple. Et OCEL va permettre de tenir compte de ces différents contextes d'usage et permettre à l'étudiant, l'apprenant, de se rendre compte qu'il y a un lien entre les différentes notions et les différents concepts. L'objectif, ça serait qu'à terme, les étudiants puissent déposer eux-mêmes des vidéos dans OCEL, mais ça nécessite d'abord qu'ils aient des compétences en LSF vidéo de manière à pouvoir gérer eux-mêmes les dépôts correctement. Si vous souhaitez plus d'informations sur le stand, nous tenons un stand avec Cédric demain à l'INSHE pour essayer de finir. Pour ne pas conclure, je dirais que plus qu'une collection de manières de faire, en prenant en compte les apports des sciences de l'éducation, de la psychologie ou des sciences du langage, ce que l'analyse révèle est le fait que les enseignements de psychologie passent par l'acquisition et la maîtrise d'un lexique de spécialité. Et ce lexique dépend avant tout de ce que l'enseignant considère comme étant le minimum nécessaire pour que les apprenants soient autonomes dans le développement de leurs compétences ultérieures. J'ai encore une dernière chose, les références. Alors, voici quelques références qui pourraient vous être utiles. Et puis, j'ai mis aussi les photos des collègues avec lesquels je travaille, tout simplement parce qu'en plus de lire, je leur pose souvent des questions et c'est dans l'interaction que se développent mes propres compétences. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je les remercie, eux, pour le temps qu'ils me donnent.
Merci beaucoup, Mélissa. Merci aux quatre intervenants cet après-midi. On a un petit temps de discussion maintenant. Si quelqu'un a des questions, je vous propose de venir ici, que vous soyez entendant ou sourd, de venir ici pour que vous soyez dans le champ de la caméra.
Alors, soit on a été super clair. Ah, quand même, il y a quelqu'un.
Ah. Signe. Ok.
Queria fazer uma pergunta sobre essa questão do glossário, né, que você está falando que está disponível online e vocês estão organizando. Ele é de livre acesso? Como é que está estruturado esse glossário?
Alors, je vais essayer de répondre aussi clairement que... Pardon. Je vais essayer de répondre... Je vais essayer aussi de répondre aussi clairement que Cédric pourrait le faire, ce qui est un peu limité. La plateforme, elle est en ligne. Il a basé la création de la plateforme sur OCL. Je peux donner le lien Internet. C'est basé sur des logiciels libres et tout est en libre accès. Il y a différents onglets où, en fait, des institutions peuvent déposer leur propre projet de glossaire. Et puis, en plus de ceux qui sont générés au sein de l'INSHEA, par exemple, ou avec des partenaires. C'était tout dans la question. C'est du libre, c'est en ligne, et normalement, dès qu'on a une connexion Internet, on peut regarder les vidéos et les télécharger.
Ouais, je peux peut-être ajouter quelque chose. Ouais. Donc, Cédric Moreau. En fait, la structure se crée au fur et à mesure des contributions. C'est-à-dire qu'on n'a pas de structure prédéfinie. Hein, on ne prend pas une architecture préexistante, par exemple, qui serait celle d'un dictionnaire français ou portugais ou brésilien. En fait, elle se crée au fur et à mesure des contributions, ce qui a l'avantage, en fait, de pouvoir accueillir des signes ou des concepts qui seraient propres, en fait, à des langues qui n'ont pas forcément de système d'écriture, donc comme les langues des signes. Et donc, chacun crée, et l'arborescence se crée au fur et à mesure des contributions. J'en parlerai demain.
Ce qui voudrait dire que s'il y en a qui ont envie de dire en libras comment ça se dit environnement ou de le dire en portugais, OCL peut l'accueillir, on serait très content que ça l'accueille en fait.
Et enfin, on peut faire des liens entre les concepts, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas une identité stricte d'une langue à l'autre, par contre on peut faire des liens, c'est-à-dire qu'effectivement on peut voir comment se dit environnement en libras, comment se dit environnement en langue des signes, et voir les ressemblances et surtout les différences.
Esse trabalho é muito interessante. A gente tem esse sistema aberto, né, que é de parceria colaborativo. Eu trabalho no Brasil também com essa temática. A gente está desenvolvendo glossários dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente tem um sistema em parcerias com 3 universidades e a gente está construindo esse corpus. Então, a gente já tem glossário na área da psicologia, da arquitetura e também informática, na área de informática. Então, a gente está querendo cobrir inicialmente 5 áreas. A gente já tem vários sinais que estão divididos em 4 vídeos. Então, tem o vídeo, nós temos a definição, né, a entrada lexical, tem um exemplo contextual e também tem as variações para esse mesmo sinal. Então, esse é o formato que a gente adotou nesse sistema. Então, é um sistema aberto, vocês podem procurar pelas letras do alfabeto ou pelas configurações manuais. É um que está em desenvolvimento também. Então, a gente pode pensar em compartilhar também essas ideias no futuro.
Une question de Gilmar?
Oui.
Bom dia a todos e a todas. Eu sou da Universidade Federal do Pará. Queria fazer uma pergunta para o nosso colega da matemática, parabenizá-lo pelo trabalho muito interessante. O que eu queria entender é se você consegue fazer esse trabalho para o conjunto da turma ou se é um trabalho específico para as pessoas surdas. Ou se você consegue trabalhar isso numa perspectiva de inclusão e se a turma compreende esse processo na tradução das equações e dos conceitos matemáticos.
Je vais répondre en portugais, mais demander en portugais, je pense que c'est plus intéressant. Ça va? Fala, como é que eu faço? Eu falo português. Passando em português, eu acho que é melhor, né? Que ele me perguntou em português. Então, na verdade, eu não trabalho em escola inclusiva. Eu trabalho em salas bilíngues para surdos. Então, nas salas que eu dou aula, só tem alunos surdos. Às vezes, tem os alunos ouvintes que se matriculam. E, como a escola brasileira é inclusiva, a gente não pode negar matrícula de um aluno ouvinte. É um problema que a gente está tendo na bilíngue, porque eu trabalho majoritariamente com os alunos adultos, no educação de jovens e adultos. Então, se o aluno ouvinte ele se matricula na sala, ele pode frequentar, mesmo sem entender a língua. É um problema que a gente está tendo grande lá. Mas o meu foco inicial do nosso trabalho é com o aluno surdo, com a aula sendo ministrada em língua de sinais. Então, não tem essa troca linguística com o português dessa forma. Não é uma interpretação, não é uma sala inclusiva que também se ensina aos ouvintes dessa forma. Os ouvintes, eles vão, os casos meus alunos ouvintes, eles têm que aprender, porque a língua de ensino é Libras, mas o foco é o ensino direto na língua de sinais, sem essa passagem com a língua portuguesa.
Merci beaucoup.